Vous écoutez RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Moteur. L'action se déroule dans ta ville. Vue d'hélicoptère ou du haut d'un building.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Elle n'a plus aucune chance. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
RTL.
Ça me fait pleurer.
Les curieux sont sur RTL.
Vous allez voir, on vous emmène au cinéma dans la curiosité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Qu'est-ce qu'on a dans le tiroir aujourd'hui?
Alors, on va ouvrir
Sidonie.
Le tiroir des grands destins, bonjour à tous. Ces dernières semaines, on a découvert les secrets d'Alain Delon, du Mahatma Gandhi, de Marie Curie ou encore de Catherine Destivelle. On continue tout de suite avec une star du cinéma.
Max Linder, vous avez tous entendu ce nom, mais qui connaît son histoire? Bonjour Serge Bombert.
Bonjour Thomas.
Soyez bienvenue.
Bienvenue, vous êtes le directeur de Lobster Film, spécialisé dans la restauration de classiques de cinéma. Entre autres, vous avez beaucoup de casquettes. On va commencer peut-être par chasser une idée reçue. Max Linder a-t-il vraiment inspiré le personnage de Charlot?
Alors, il ne l'a pas inspiré à proprement parler, mais il l'a précédé, sans aucune espèce de doute. Linder commence au cinéma en 1905, Chaplin commence au cinéma en 1914. C'est-à-dire que pendant 9 ans, Chaplin, qui n'était qu'une personnalité qui faisait de la scène à Londres, a vu très probablement les films de la très grande star Max Linder, et en ce sens, il y a probablement eu des influences.
D'accord, Max Linder, dans les années 1910, c'est une vedette, je disais, la première star mondiale du cinéma. On peut dire ça?
On peut tout à fait dire ça, à un tout petit détail près, c'est que le cinéma à l'époque n'est pas exactement le cinéma qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas les salles, etc. Donc, mais Linder est certainement, parce qu'il a signé avec la société Pathé et que Pathé a décidé d'en faire une très grande vedette, c'est comme ça qu'on dit à l'époque, ils vont faire une très grande campagne publicitaire et Max Linder va devenir la première star véritablement mondiale de l'histoire du cinéma. Et ça, c'est vrai.
On va raconter la vie de Max Linder, un destin souvent sombre pour une star du comique. Son histoire commence en Gironde, à Saint-Loubès, en décembre 1883. Dans quel milieu familial vient-il au monde?
Oh, il naît dans un milieu relativement modeste, paysan et un petit peu bourgeois. Et la réalité, c'est qu'il décide de devenir élève acteur, parce que son idée au départ, le cinéma évidemment n'existe pas jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est de devenir une vedette de théâtre, mais de théâtre de très haut vol. Il s'imagine à la Comédie Française ou dans des troupes de cet acabit-là. Simplement, c'est très compliqué.
Est-ce qu'il a été élevé par ses parents? D'abord, Max Linder, c'est pas son vrai nom, évidemment.
Non, il s'appelle Gabriel Leviel. Il a pris ce nom parce que la légende dit qu'il est passé devant un magasin de chaussures qui s'appelait Linder et que Max venait d'un autre, une autre référence. Bon, la réalité, c'est que c'est pas très très important. En tout cas, il a été connu sous le nom de Max, un peu comme Charlie Chaplin a été connu sous le nom de Charlot. Donc la première vedette, c'était Max Linder, Max. Et d'ailleurs, si la mémoire de Max Linder a perduré longtemps, c'est parce que Pathé a longtemps fait du cinéma à domicile. Il donnait des petits projecteurs dans les années 30 jusqu'à la fin des années 60, où il passait du Super 8 ou du 9,5 mm. Et la vedette de ces tout petits films muets, c'était toujours Max, Max, Max. C'est-à-dire que de très nombreuses années après sa disparition des grands écrans comme de la télévision, Max existait encore dans les salons familiaux.
Quelle est la silhouette de Max Linder? Il ressemble à quoi? Il est grand, petit, beau?
Max Linder n'est pas
très beau.
Il est très beau. Il est très. C'est vous qui me l'avez dit. Il est très élégant.
C'est vrai, parce que tout.
En préparant l'émission, on a regardé.
On peut même plus avoir
de
splendeur.
C'est notre première réaction.
Il est très élégant. Il a une petite moustache effilée. C'est un dandy et c'est quelqu'un qui, en gros, essaye de faire partie de la haute, mais qui malheureusement n'en fait pas partie. Donc c'est le principe de Max, c'est ça. Comment essayer de s'élever dans l'échelle sociale en étant plus élégant et en faisant d'être un petit peu plus que ce que l'on est vraiment. Et voilà, c'est le ressort de centaines de films.
Donc on est au tout début du 20e siècle, dans les années 1900-1905, il monte à Paris, il fait du cinéma. Ça veut dire quoi faire du cinéma?
Alors,
en 1905
pour vous situer, le cinéma, les Frères Lumière, c'est le 28 décembre 1895, c'est-à-dire c'est la toute fin du 19e siècle. Moins de 10 ans plus tard, le cinéma, c'est en fait des réseaux forains avec des petits films qu'on passe à droite à gauche, mais le cinéma n'est pas ce que l'on croit aujourd'hui. Mmh. Faire du cinéma, en fait, c'est un métier qui n'a aucun prestige, c'est un métier pour va-nu-pied, et en gros, Pathé veut faire circuler des films, il a besoin d'une vedette, il tombe sur cet acteur-là, et il se dit finalement, pourquoi pas, et il l'embauche. Mmh.
Serge Bombert, pour découvrir les films de Max Linder, la Fondation Pathé organise un cycle du 20 février au 6 mars à Paris, dans le 13e arrondissement. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quel personnage incarnait Max Linder au cinéma?
Il a incarné plusieurs personnages, mais ce personnage de celui qui veut monter par tous les moyens possibles et imaginables, ouais, est vraiment le personnage de Max, est le personnage central. Maintenant, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. À l'époque, être un Rastignac, essayer de séduire les jolies femmes, etc., c'est quelque chose qui est totalement à la mode. Aujourd'hui, ça peut paraître complètement démodé, mais il faut se mettre dans cet état d'esprit-là, et je vous promets, c'est quelque chose, même encore aujourd'hui, d'absolument irrésistible.
Max Linder, un Français devenu star aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Russie. Comment a-t-il convaincu Hollywood? Tiens, réponse à venir dans La Curiosité. Restez avec nous sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Et il y a du cinéma dans la curiosité avec Serge Bombert, directeur de Lobster Film, spécialisé dans la restauration de films anciens. Et grâce à vous, on donne vie, on donne un visage à un nom que tout le monde connaît, c'est Max Linder, star du cinéma muet au début du XXe siècle. Vous sortez d'ailleurs un DVD sur ses longs métrages américains. Et justement, c'est sa carrière outre-Atlantique qu'on va raconter maintenant. Pourquoi et à quelle époque Max Linder va rejoindre l'Amérique?
Alors c'est très étonnant parce que déjà tout le monde pense quand on dit Max Linder que c'est Max Linder, et qu'évidemment c'est un Américain.
Mais oui, c'est vrai. Évidemment,
il est, comme on l'a dit,
il est de Saint-Loubès.
Exactement.
En Gironde.
Voilà. En fait, Max ne va pas faire la guerre. Il va être réformé suite à des problèmes qu'on ne va pas détailler ici. Et il se trouve qu'en 1917, à la fin 1917, un certain Charlie Chaplin fait faux bond à son producteur qui s'appelait Essanay. Et du coup, cette société basée à Chicago se dit, il nous faut absolument remplacer Charlie Chaplin parce que c'est une vedette incroyable, et le seul qui peut arriver à la hauteur de Charlie Chaplin dans sa notoriété internationale, c'est évidemment le Français Max Linder. Je vous rappelle que le cinéma à l'époque est muet, donc le fait que les gens parlent la langue ou pas n'a aucune espèce d'importance. Donc on demande à Max Linder de venir aux États-Unis, et Linder signe pour 12 films en un an avec la société Essanay, et c'est le début de sa carrière américaine qui d'ailleurs va assez mal se passer.
Il est bien payé pour cette mission,
plutôt bien payé. Il est payé la moitié de ce qu'était payé Chaplin avant lui. Mais par rapport au salaire français, c'est quand même plusieurs milliers de dollars par semaine. La réalité, c'est que malheureusement, ça ne va pas le faire. Linder va décevoir par rapport à Chaplin, d'autant que Chaplin, de l'autre côté, continuait avec un autre producteur, et lui, il faisait carton sur carton, parce qu'il avait installé cette silhouette du vagabond avec sa canne, son chapeau melon, etc. Ce que Linder n'avait finalement pas tant réussi
il
à faire
pas de
que
personnage
ça.
Vraiment
il avait un personnage, mais c'était un personnage très européen et très français. Donc on lui a demandé de le gommer un tout petit peu. Donc il va faire 3 films d'une vingtaine de minutes, et puis ça ne va pas marcher.
Mais il va revenir à Hollywood quelques années plus tard.
Exactement. En fait, Linder avait commencé, juste avant de partir, il avait acheté un cinéma qu'il avait appelé le cinéma Max Linder,
En
France, à Paris. Mm-hmm. Qui d'ailleurs s'appelle toujours le Max Linder Panorama.
Très joli cinéma, oui.
Magnifique, sur les boulevards. Et il revient en 1919 pour ouvrir son cinéma et devenir l'un des éminents personnages du cinéma européen.
Il y a une scène dans laquelle va jouer Max Linder, qu'on peut voir d'ailleurs sur Internet, une scène magique, mythique, c'est la scène du miroir.
Alors, la scène du miroir a été tournée un petit peu plus tard, puisque, en fait, pendant son voyage américain, Linder avait quand même fait connaissance avec les grandes vedettes là-bas, Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, bien entendu. Et du coup, Fairbanks et Chaplin lui disent « Mais reviens, viens faire des films aux États-Unis ». Et Linder va repartir en 1921 et va faire ses fameux 3 films américains, les 3 longs-métrages que vous avez évoqués et qui sont dans notre DVD. Dans ces 3 films, Linder s'y montre être un précurseur extraordinaire. Par exemple, il prend les décors des 3 Mousquetaires de Douglas Fairbanks qui vient d'être tourné, et il va tourner un film qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, L'étroit, et qui est une parodie des Trois Mousquetaires, et qui est absolument irrésistible, et qui va avoir un succès absolument phénoménal.
Et la scène du miroir, je me souviens
la
pas,
la scène
moi,
du miroir vient dans, est dans un film qui s'appelle 7 ans de malheur, mmh. et pas 7 ans de réflexion, et ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, cette séquence-là va être reprise 10 ans plus tard par les Marx Brothers dans La Soupe au Canard, et va devenir une séquence de légende. Mais voilà, entre-temps, Linder a eu des heures et des malheurs, et c'est vrai qu'en 1922, il rentre à Paris, et ça auréolé de sa gloire américaine, et il va commencer la dernière phase de sa vie particulièrement agitée.
Alors justement, Serge Brombert, on est au début des années 20, Max Linder est au sommet de sa gloire, sa vie bascule dans le drame, tout commence en 1921 avec une rencontre.
Oui, il rencontre une jeune femme qui a 16 ans, elle s'appelle Ninette Peters, elle est mineure, ils tombent tous les deux amoureux, lui a 39 ans. Et du coup, ça va être terrible, la mère de Ninette Peters va évidemment dire non à cette relation impossible, impossible, mais Max Linder ne l'entend pas de cette oreille.
Ils vont se marier ?
Il enlève Ninette et 2 ans plus tard, ils vont se marier alors que la mère de Ninette lui dit « Mais n'épouse pas cet homme, il est dingue. »
Avec cette jeune et jolie femme, Max Linder sera dévoré par la jalousie jusqu'à sa fin tragique. Comment est-il mort ? Réponse dans un instant sur RTL.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Pardon de m'immiscer les petits curieux. Je profite de ce podcast pour vous inviter à nous rejoindre, moi et ma petite bande, pour À la bonne heure, dès 11h sur RTL, un invité tous les jours, du rire, des infos étonnantes et le plein de bonne humeur. Avant de passer à table, ce serait dommage de rater ça, non ? Allez, à vous Thomas et Sidonie.
La curiosité est un vilain défaut.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi.
RTL.
Je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Comme au cinéma. Comme au cinéma.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Le cinéma inspire les chanteurs de Boris Vian à Rock Voisine en passant par l'immense Claude Nougaro.
Le retour de Rock Voisine.
Le retour de Rock Voisine, puisque c'est tout récent cette chanson. Et le cinéma nous inspire dans la curiosité, puisqu'on partage avec vous ce grand destin français, celui de Max Linder, star du cinéma muet, petit bonhomme parti de Saint-Loubès en Gironde et devenu une star, une vedette, c'est ce qu'on disait à l'époque, aux États-Unis. Toujours avec nous le producteur Serge Brombert. On l'a dit, Max Linder s'est marié août 1923 avec la toute jeune Ninette. Est-ce que c'est un mariage heureux ou orageux ?
Alors, c'est un mariage orageux. Je voudrais d'abord faire un petit avertissement. Max Linder était quelqu'un d'irrésistible, de totalement novateur, de profondément génial et extrêmement drôle. Le problème, c'est que, comme vous allez l'entendre, sa fin a été plutôt très très triste et surtout, elle est arrivée quelques années avant l'émergence du cinéma sonore. Cette double fatalité du comique devenu tragique et du cinéma devenu sonore fait qu'aujourd'hui, Linder est totalement oublié. Mmh. Mais en réalité, il ne faut pas se limiter à ce drame et voir vraiment en Max Linder quelqu'un de formidable. Pour répondre à votre
mariage
question.
Mariage heureux ou orageux ?
Mariage très orageux parce qu'il y a 23 ans de différence entre Ninette et Max. Et Max va devenir abominablement jaloux. Ça va d'ailleurs hanter sa vie. Et il va commencer à ne plus penser qu'à ça, à devenir possessif. Enfin, quelque chose de complètement en spirale. Au point d'en devenir tellement fou qu'il va proposer, et elle va accepter, c'est vous dire à quel point c'est dingue, en 1924, il va proposer à Ninette de se suicider avec elle. Et ils vont prendre tous les deux du poison dans un hôtel. Il se trouve qu'elle va survivre. Non seulement elle va survivre, mais avant de perdre connaissance, elle va pouvoir appeler les secours et ils vont être sauvés tous les deux. Évidemment, drame, on essaie de cacher le scandale, mais il y a cette sorte de fatalité qui désormais plane au-dessus de ce couple.
Et malgré tout, ils ont eu des enfants ?
Ils vont avoir une fille qui s'appelle Maude, qui est née en 1924 et qui en fait ne va pas connaître ses parents. Puisque Linder va tourner un dernier film en Autriche qui s'appelle Le Roi du Cirque, film perdu aujourd'hui. Et à son retour, en octobre 1925, dans un hôtel de luxe, il va ouvrir les veines de son épouse. Il va attendre qu'elle soit décédée et il va s'ouvrir les veines à son tour pour que ne se reproduise pas le sauvetage de dernière minute qui avait eu lieu un an plus tôt. Vous imaginez évidemment le drame, vous imaginez également les jalousies et les batailles pour s'approprier la fortune de Max Linder.
Il y a un scandale d'abord, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est étouffé, est-ce que le public saura comment Max Linder est mort?
Malheureusement, bon, ça part un peu moins vite que Johnny Hallyday aujourd'hui, mais globalement le public saura et tout d'un coup on va se détourner de Max Linder, ça va avoir beaucoup moins d'impact.
Qui hérite? C'est sa fille, Maud Linder?
Alors, c'est sa fille qui hérite, mais évidemment, il y a un tuteur, sa fille a un an et demi, et puis il y a la mère de Ninette, qui n'a que 39 ans, qui va réclamer d'avoir sa petite fille, auprès de qui elle va se faire passer pour sa mère. Donc, Maud Linder va penser longtemps que sa mère est en fait celle qui est sa grand-mère, pour lui cacher que son père est un assassin, etc. Enfin bref, je vous cache le sordide. Maud Linder mourra à 93 ans en 2017, c'était il y a quelques mois.
Et on va raconter comment elle a sauvé les films de son père, mais d'abord, vous sortez ce DVD sur ces longs métrages américains, il en reste beaucoup, des parce qu'il en a tourné énormément des films Max Linder.
Qu'est-ce
qui est arrivé à ces bobines, en fait?
La plupart de ces films ont été, là c'est malheureusement la damnation des films de l'époque, c'est l'oubli, c'est la décomposition de la pellicule filmique, il y a à peu près la moitié de ces films qui sont manquants, bien qu'on en retrouve de plus en plus aujourd'hui. Vous savez, comme il a eu un énorme succès au début de sa carrière, ces films ont été vraiment partout et donc forcément on retrouve des copies de ces films un peu échoués, un coup en Argentine, un coup en Russie, un coup en Chine, donc on en retrouvera beaucoup.
Et vous avez commencé à l'évoquer, Serge Bambert, Maud Linder a joué un rôle essentiel pour sauver l'œuvre de son père. Relation forcément compliquée, imaginez cette petite fille, comment vivre avec un tel poids, un tel héritage. On vous raconte ce sauvetage des films Linder dans une minute sur RTL.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h. La curiosité est un vilain défaut.
Et notre curiosité du jour, c'est ce destin hors norme, celui de Max Linder, la plus grande star du cinéma muet, juste avant Charlie Chaplin et Buster Keaton. C'est le producteur Serge Bambert qui raconte Max Linder qui s'est donc suicidé après avoir tué sa femme le 1er novembre 1925. À l'époque, il laisse une œuvre, une immense fortune et une petite fille de 16 mois, Maud. C'est impossible de se mettre à sa place, mais quand elle découvre qui est son père, découvre cette histoire...
Elle le découvrira très tard. Il faut comprendre que Max avait 42 ans, Maud en avait 19. Ninette en avait 19, son épouse. Et donc, la grand-mère de Maud avait 38 ans, et donc elle s'est fait passer...
Elle pouvait
pour sa mère.
D'accord.
Et donc Maud a toujours cru, enfin jusqu'à l'âge de 16 ans, que la femme qu'il élevait et qu'elle pensait être sa mère était et sa grand-mère était en fait.
Et quand elle
mère.
Apprend l'existence de son père, c'est quoi? C'est une relation amour-haine, on imagine. Elle l'admire, elle le hait, quoi.
Voilà, c'est comme elle disait toujours, pire père que Max, tu meurs. c'était vraiment un truc terrible. D'ailleurs, dans toute sa vie, elle n'a pas pu avoir de relation équilibrée avec des hommes, ni même avec l'humanité tout entière.
Elle a pu profiter de la fortune de son père.
Il n'y a pas eu de fortune, en fait. Elle a été dilapidée, évidemment, par la famille avant que Maud ne soit une adulte. La réalité, c'est que Maud a passé l'essentiel de sa vie à essayer de reconstruire les films de son père, à les faire connaître, en gros, à clamer haut et fort que son père était un héros. Et elle l'a fait à travers deux films de long métrage, L'homme au chapeau de soie et en compagnie de Max Linder, et en essayant de restaurer, de retrouver, de montrer partout les films.
Elle en a retrouvé beaucoup ?
Elle en a retrouvé pas mal. Elle avait raconté une légende comme quoi il y avait eu des films enterrés au pied d'un arbre dans la maison familiale, qu'elle était allée les déterrer et qu'elle les avait sauvés. Mmh. Ce qui est évidemment totalement faux, parce que quand vous enterrez des films, vous revenez 6 mois plus tard, il n'y a absolument plus rien. mais quelque part, quand la légende est plus belle que la réalité, il faut imprimer la légende. Et je crois qu'elle a véritablement tenu haut la légende de Max Linder. C'est elle qui l'a fait perdurer.
Et vous, d'un mot, Serge Bambert, vous faites aussi perdurer cette légende. Vous organisez des projections de ces films. Dans quelles conditions?
C'est-à-dire que depuis environ 25 ans, je fais des projections qui s'appellent Retour de Flamme, où en gros j'invite des gens à partager un peu l'ambiance de ce qu'était le cinéma de l'époque, et puis surtout à essayer non seulement de restaurer les films, mais surtout de restaurer les spectateurs. Parce qu'en fait, ces films, ils sont toujours aussi formidables. Enfin, disons qu'il y a 5 à 10% de ces films qui sont aussi formidables qu'au premier jour, sauf qu'on en a perdu le contexte. On n'arrive plus à les lire parce qu'on ne comprend plus vraiment de quoi il s'agit. Donc, quelque part, je fais des spectacles où je raconte deux, trois petites anecdotes, un peu comme Pierre Tchernia ou ces gens-là.
Et vous puis, le faites très bien pour y avoir assisté. Il y a une mise en onde aussi. Vous mettez les films en musique.
Ah bah voilà, je joue du piano comme on le faisait à l'époque.
Et bah voilà, super. Merci beaucoup, Serge Brombert. Donc, ce DVD sur les films américains de Max Linder. Et puis aussi, pour voir ces films en ce moment, le cycle Max Linder à la Fondation Pathé, c'est à Paris, dans le 13e.
Et il y a du piano à chaque séance.
Et ben voilà, c'est super.